RCF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission « Le sport au cœur de la foi » avec cette semaine comme invité, une fois n'est pas coutume, un professeur en théologie, Olivier Bauer, professeur à la faculté de théologie et de sciences des religions à l'université de Lausanne. Bonjour Olivier.
Bonjour Joël.
Alors l'idée c'est de pouvoir échanger en cette période de la commémoration des 500 ans de la réforme protestante. Nous sommes dans l'émission Le sport au cœur de la foi dans les créneaux protestants. Donc ça me paraît intéressant de pouvoir réfléchir à qu'est-ce que le protestantisme peut nous dire sur le sport et qu'est-ce qui s'est passé depuis 500 ans. Sur votre blog olivierbauer.org, vous développez le concept que le sport est une religion, que la religion est un sport, qu'il y a de la religion dans le sport. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en quelques mots pour nous donner envie d'aller sur votre site?
Moi, c'est oui, enfin, j'espère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour certaines personnes, le sport fonctionne comme une religion. Ça remplit leur vie, ça leur donne un sens à leur existence. Voire parfois, ils y voient quelque part des puissances supérieures et qu'il faut amadouer ou qu'il faut faire jouer de son côté. À l'inverse, le sport. Enfin, je ne sais pas si je dirais d'ailleurs que la religion est un sport. Ça, c'est un point que je devrais un peu commencer à réfléchir et à débrouiller. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment la religion s'invite dans le sport et le sport dans la religion. Alors, la religion dans le sport, vous êtes bien placé pour le dire. C'est toutes les questions d'aumônerie des milieux sportifs, par exemple. Hein, comment est-ce qu'on gère quand on est un chrétien ou un croyant en général? Comment est-ce qu'on vit sa foi dans son milieu sportif? Et à l'inverse, c'est aussi le sport dans les milieux d'église, dans l'activité d'église. Je pense en particulier toutes les activités avec les adolescents. Et puis cette idée aussi d'une éducation par le sport, on dit souvent un esprit sain ou une âme saine dans un corps sain. C'est là un peu que le sport peut aussi s'inviter dans la religion.
Et alors justement, vous développez ce concept, le sport est comme une religion, on parle des stades de foot notamment qui sont comme les nouveaux temples. Est-ce qu'il y a d'autres comparatifs que vous avez trouvés?
Bah c'est sûr, il y a des choses comme ça en surface. Moi, j'ai vécu pendant 10 ans à Montréal et j'ai découvert que le maillot du Canadien de Montréal a comme surnom la sainte flanelle. Alors flanelle parce que c'est le tissu des travailleurs et sainte parce qu'il y a quelque chose de sacré dans cette équipe de hockey qui fait vivre la ville de Montréal et plus largement le Québec. Donc ça, c'est des éléments de langage que l'on retrouve souvent, évidemment, le temple comme le stade comme temple, mais aussi toute la notion de rite, de chorégraphie. Puis après, on trouve d'autres expressions. C'est un peu la pointe de l'iceberg. En rugby, on emmène le ballon dans la terre promise. Au football américain, enfin au canadien, on convertit les essais. Mais il y a un nombre d'expressions. Il y a toujours des joueurs qui sont des sauveurs. Les gardiens font des arrêts miracles. Ils sauvent leur équipe. Et puis une expression récente qu'on entend beaucoup, je trouve qu'elle est assez nouvelle, c'est quand un sportif est au maximum ses capacités, on dit « il marche sur l'eau ». Évidemment, c'est une référence assez transparente pour ceux qui connaissent à l'épisode où Jésus marche sur les eaux du lac ou de la mer.
Vous êtes toujours dans le sport au cœur de la foi avec comme invité le théologien Olivier Bauer qui travaille à l'université de Lausanne. Aujourd'hui, dans la sémantique des journalistes, c'est toujours riche en citations bibliques. On a souvent des unes étonnantes. Dernièrement, on avait une une avec Messi, avec toujours avec un jeu de mots. Comment vous expliquez ce phénomène actuel et quelles sont les unes de journaux qui vous ont le plus marqué en tant que théologien?
Alors, je crois que c'est d'abord l'explication à mon avis, c'est qu'on les journalistes puissent facilement dans une culture qui est encore commute, mais peut-être ça va changer. C'est quelque chose qui est à disposition. Et puis, ça dit bien un peu quelque chose du sport, cet aspect un peu les aléas, on maîtrise pas tout. Et puis, tout d'un coup, il y a des choses qui sortent de l'ordinaire extraordinaire. Et le vocabulaire religieux est utile pour décrire rapidement, de manière concise, une image. Si, par exemple, on dit c'était David contre Goliath, pour la plupart des gens, mais encore une fois, peut-être ça va changer, ça dit quelque chose de la victoire du petit, du challenger, pas sur le grand, sur le favori. Donc je pense que c'est vraiment, je ne suis pas sûr qu'il faut aller beaucoup plus loin que l'idée de dire les journalistes utilisent des métaphores qui leur sont utiles et qui peuvent parler à leurs lecteurs ou à leurs spectateurs. Pour la une, alors évidemment, je vais être un peu chauvin en tant que Suisse, mais je trouve intéressant cette année, on a vu apparaître plusieurs fois la résurrection de Federer. C'était vraiment comme ça que s'était présenté l'idée d'une vie après la mort, la résurrection de Roger Federer. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est marquant dans un pays comme la Suisse.
Et du coup, dans ces unes, vous dites, bon, pour comprendre dans un contexte culturel, est-ce que vous pensez que les unes pourraient être davantage influencées par l'islam, ou est-ce que l'islam a des belles histoires à raconter, comme celle de David et Goliath, ou de Jésus qui marche sur l'eau?
Alors il y a certainement des très belles histoires. Après, la question c'est qui les partage, ou qui peut connaître ces histoires, et je pense que ça reste encore, même en France, relativement marginal. Mais par exemple, Montréal a toujours été présenté comme la Mecque du hockey. C'est jamais le Vatican, par exemple, ou la Rome du hockey. C'est toujours cette expression qui est présentée, empruntée à l'islam, pour une ville importante, pour un sport. C'est la Mecque du hockey. Donc là, on voit qu'il y a une métaphore liée à l'islam, mais qui parle évidemment globalement à l'ensemble d'une population. Donc ça arrive, et puis il y a d'autres expressions qui sont parfois empruntées aux religions grecques, quand on parle des héros, du gardien de but, comme le Cerbère, celui qui gardait les enfers, et puis on trouve aussi d'autres références à d'autres traditions religieuses plus ou moins connues dans l'hindouisme, ou parfois même des choses très vastes. Les astres étaient bien alignés, on a l'impression là qu'on touche à une forme de spiritualité, d'horoscope ou de New Age de manière un peu plus générale.
Vous êtes toujours dans le sport au cœur de la foi avec comme invité le théologien Olivier Bauer qui travaille à l'université de Lausanne. Alors, quel est votre rapport personnel au sport? On sait que vous êtes un théologien, mais est-ce que vous êtes un praticien du sport?
Alors oui, je suis un praticien. Alors bon, je vieillis, mais quand j'étais jeune, j'ai un peu touché à dire tous les sports, c'est un peu exagéré, mais j'ai fait beaucoup de football et de hockey sur glace, comme j'ai grandi en Suisse. J'étais gardien de but dans les deux sports, et mes parents m'ont toujours dit, c'est bizarre, tu fais des sports d'équipe, mais tu joues tout seul dans ton but, et peut-être ça dit quelque chose de ma personnalité. Donc j'ai beaucoup joué, après j'ai un peu mis la pédale douce ou levé le pied, et puis là, depuis mes 50 ans, en fait, j'ai commencé de la course, et je cours quelques marathons plus pour le plaisir et pour le défi, mais c'est un effort solitaire, de longue durée, et voilà, ça me convient bien, en fait, je crois que ça correspond bien à une période de ma vie. Je dois dire aussi que je suis gros consommateur de sport à la télévision, et je m'intéresse un peu à tout ce qui tourne autour du sport et tous les types de sport.
Et vous diriez que vous êtes davantage d'abord converti au sport ou converti au Christ ?
Non, je suis quand même. Enfin, comme je dis, quand je dis que le sport est une religion, je dis tout de suite, c'est pas ma religion, mais ce qui signifie pas que c'est pas une religion. Pour moi, c'est pas beaucoup de valeurs qui sont dans le sport ou de non-valeurs justement sont incapables de me faire vivre. Donc moi, je me définirais une religion, enfin si une confession, une foi chrétienne. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup appris, je pense au niveau éducatif, j'ai beaucoup appris dans le sport, de vie en commun, de partage avec d'autres personnes. C'est vraiment au niveau plus de l'éducation, mais c'est pas là que je mets ma fidélité ou ma priorité.
Et justement, aujourd'hui, donc, vous vous préparez pour faire un marathon, et dans votre pratique sportive, avec tout le recul que vous avez, comment votre théologie chrétienne rencontre-t-elle concrètement votre pratique sportive? Comment l'un enrichit l'autre?
Je crois que ce qui m'apparaît le plus important maintenant, mais ça ne veut pas dire que c'était comme ça quand je jouais, c'est quand même une relativisation, en me disant tout ça, c'est pas très important. Et on joue, on gagne, on perd, on fait match nul, ça va bien, ça va moins bien. C'est des épisodes de la vie et je trouve que c'est pas quelque chose qui est essentiel. Et même, ça a peut-être pris un peu plus de temps, mais par rapport à des équipes ou à des sportifs que j'aime bien, je deviens de plus en plus détaché en me disant, voilà, que l'équipe de Suisse gagne ou qu'elle perde, l'équipe de France gagne ou qu'elle perde. C'est finalement, l'important, c'est le jeu qui est déployé. Je trouve que c'est peut-être cette idée-là qui me semble la plus importante, c'est de dire... le sport n'est pas la chose la plus importante de ma vie et il y a des priorités à fixer. C'est peut-être ce que je dirais, que ma foi, c'est là qu'elle a l'impact peut-être le plus important par rapport à la place du sport ou d'autres activités.
Et alors, est-ce que la Bible a quelque chose à dire du sport? Est-ce qu'on peut développer une théologie du sport? On sait qu'à l'époque, le sport n'existait pas, mais il y avait les grands jeux qui étaient mis en place par l'Empire romain à l'époque où les textes du Nouveau Testament ont été écrits. Est-ce qu'on peut y retrouver des métaphores, des enseignements?
Alors, Paul utilise quelques métaphores sportives. Il parle qu'il a boxé le bon combat ou qu'il arrive au bout de sa route, de sa course. Il parle aussi il fait des comparaisons avec l'athlète en disant le chrétien comme l'athlète traite durement son corps et l'endurcit à l'idée d'un entraînement, d'une pratique, parfois d'une souffrance, d'une difficulté aussi à progresser dans la foi comme l'athlète a la difficulté à progresser dans le sport. Moi, je trouve, si je devais réfléchir une théologie du sport, en fait, je la fonderais sur le texte de Paul dans la lettre 1er épître aux Corinthiens, quand il dit « Nous prêchons le Christ crucifié, folie pour les Grecs, et puis scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs ». Et je pense que c'est ça la théologie du sport. C'est quand même cette idée de se dire que s'il y a une image de Dieu, elle est plus dans le perdant que dans le gagnant. Moi, je pense que c'est là que je la fonderais, cette théologie du sport, en disant c'est plus le perdant et la défaite qui nous révèle Dieu que la victoire.
Oui, on peut dire que oui, cette apparente défaite, finalement, est le plus grand triomphe sur le péché et sur le mal.
Oui, et puis même au niveau éducatif, c'est facile d'être bon gagnant. Mais d'être un bon perdant, je trouve que c'est là aussi au niveau éthique, au niveau du développement personnel. Je trouve que c'est là qu'il y a des défis. Tant qu'on gagne, tout va bien. Mais quand on commence à perdre, il faut intégrer cette idée, ces limites aussi. Vous dites péché, mais c'est aussi simplement limite physique de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire, ce qu'on peut réussir, ce qu'on peut pas réussir. Et je trouve que là, on apprend à se connaître soi-même et on apprend à... Oui, à vivre avec ses limites d'être humain, finalement. C'est là qu'on sait qu'on est une créature avec des forces, bien sûr, mais aussi avec des faiblesses, avec des choses qu'on réussit et des choses que l'on rate. Moi, je trouve que c'est, encore une fois, si je délègue dans l'expérience du sport, c'est peut-être là que je mettrais l'expérience théologique. Comment on réagit après une défaite? Comment on l'intègre dans sa vie?
Et est-ce que la notion de coupe, d'élever une coupe, d'élever un trophée lors d'une victoire prend des racines dans une culture biblique?
Peut-être ce qu'il faudrait dire, c'est qu'en fait, je crois que ça me semble plus juste de dire qu'il y a des origines communes à des rites religieux et à des rites sportifs. Parce qu'évidemment, avant le christianisme, il y avait déjà des coupes dans par exemple, les libations chez les Grecs qui jouaient un rôle important. Et le christianisme a emprunté un certain nombre de pratiques rituels, religieux, spirituels, sociaux, et leur a donné un sens particulier. Et on pourrait dire que le sport fait pareil, il a emprunté des éléments déjà aux traditions grecques, enfin à Olympie, aux religions grecques, et puis il leur a donné un sens particulier. Donc oui, il y a de la lumière souvent dans le sport et dans la religion ou dans le christianisme, il y a des coupes dans l'une et dans l'autre, il y a des communions, des chants, des pratiques, etc. On peut se mettre à genoux, on peut élever les bras, mais c'est pas forcément un emprunt du sport à la religion ou de la religion au sport, mais il y a des espèces de grands gestes, grandes histoires, grands motifs dans lesquels l'un et l'autre puisent. Et je trouve que c'est intéressant de se dire, là, il y a deux réalités très différentes, mais qui utilisent un peu les mêmes éléments rituels ou symboliques.
Merci beaucoup, Olivier Bauer, d'avoir répondu à mes questions pour cette première partie de l'entretien, où nous allons continuer à creuser la théologie et le sport et en commémoration des 500 ans de la réforme protestante. C'était le sport au cœur de la foi. Je vous dis à la semaine prochaine sur les ondes de RCF Alpha.
RCF.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission, Le sport au cœur de la foi. Avec comme invité Olivier Bauer, professeur de théologie à la faculté de Lausanne, spécialiste dans la science des religions. On continue notre émission spéciale théologie et sport dans cette période de la commémoration des 500 ans de la réforme protestante. Bonjour Olivier.
Bonjour Joël.
Qu'est-ce que la réforme protestante, ce que Luther et ses 95 thèses ont apporté sur le regard, comme regard sur le monde du sport ?
Franchement, là, il faut peut-être être assez clair. Au niveau du sport proprement dit, la réforme n'a pas amené grand-chose sur la manière de concevoir ou de pratiquer le sport. Mais c'est pas tout à fait par hasard que j'ai commencé en soulignant le poids de Luther, parce que ça veut dire aussi que pour lui, le corps a été quelque chose d'important. Et peut-être si on peut trouver un biais pour relier réforme et, en tout cas, luthérienne, Luther et le sport, ça serait par le biais du corps, la corporéité. On dit souvent, alors on prête qu'aux riches, mais on dit souvent que ce qui a motivé Luther à faire la réforme en particulier, c'était des questions très corporelles, par exemple la nourriture. Évidemment, pour Luther qui était allemand, le carême, c'était une période difficile parce qu'on ne pouvait plus prendre de graisse animale, donc plus de beurre, plus de sein doux. Dans les pays méditerranéens, on avait toujours l'huile d'olive et c'était plus facile. Mais certains ont dit Luther a fait la réforme parce qu'il aimait le beurre ou la bière. D'autres ont dit il a fait la réforme juste pour se marier, parce que là aussi on est dans le corps et dans le charnel. Et puis aussi cette idée du corps en général et de sa place dans la théologie, dans la foi, mais aussi dans la pratique sportive. Il y a certainement un impact de la réforme dans une forme de réhabilitation du corps, plus chez Luther que chez Calvin d'ailleurs.
Et dans quel monde sportif, si je puis dire, parce que le sport n'était pas encore appelé sport, hein, c'était... Les pré-jeux ludiques vivaient Luther. Est-ce qu'on sait s'il avait une pratique corporelle ?
Alors la seule chose qu'on dit de lui, c'est qu'il jouait au qui, semble-t-il. Il aimait bien les qui. Alors on trouve 2-3 traces comme ça sur Internet, mais ça reste très flou, cette idée-là de Luther en joueur de qui. Mais certains ont dit qu'il avait même construit une piste de qui près de sa maison, qui jouait en famille. On dit même qu'il aurait donné une sorte de sens théologique au jeu de qui, parce que chaque qui représentait un péché. Et quand il lançait sa balle, et il fallait essayer de faire tomber les qui pour vaincre le péché. Donc ça, c'est ce qu'on dit de la pratique sportive de Luther. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il aimait pas plus passer du temps à table que sur les terrains de jeu, mais ça c'est un peu une opinion personnelle.
Vous êtes toujours dans le sport au cœur de la foi avec comme invité le théologien et sportif Olivier Bauer qui s'intéresse aux questions du sport et de la religion. Qu'est-ce que la théologie protestante aurait pu apporter aux sportifs par rapport au contexte catholique dans lequel Luther a développé ses 95 thèses, si le sport avait existé il y a 500 ans comme on le connaît aujourd'hui?
Alors on pourrait peut-être dire qu'il y a du bon et du mauvais. Je trouve le bon, ça serait peut-être l'idée de dire de la manière générale, le protestantisme, la réforme a dit à chaque personne, toutes vos activités doivent être faites pour la gloire de Dieu et toutes vos activités peuvent être faites pour la gloire de Dieu. Donc si vous êtes prêtre ou pasteur ou équivalent, c'est très bien. Mais si vous êtes charcutier, si vous êtes boulanger, si vous êtes musicien, si vous êtes peintre, vous avez la responsabilité de mettre votre talent au service de la gloire de Dieu. Et on pourrait dire de la même manière, si vous êtes sportif, footballeur, hockeyeur ou rugbyman, vous avez aussi la responsabilité de mettre votre talent au service de la gloire de Dieu. Donc c'est une valorisation de tout ce qui est activité, disons, non religieuse, en disant toutes les activités, et pas seulement les responsabilités ecclésiales, sont là, vous permettent, vous donnent l'occasion de glorifier Dieu et de témoigner de votre foi et de l'impact de votre foi dans votre existence. Ça, c'est peut-être pour le côté positif que la réforme aurait pu amener.
Et alors, il y a un côté négatif ?
Alors, le côté négatif, c'est que la pratique des loisirs est, encore une fois, c'est plus développé du côté... Il y a une séparation entre le monde luthérien, disons, allemand, scandinave, et puis le monde plus réformé, la France, peut-être les États-Unis, l'Angleterre, où il y a un côté puritain en disant, finalement, toutes les activités de loisirs sont très secondaires, et c'est pas important, et on devrait pas y consacrer ni beaucoup de temps, ni beaucoup de moyens. Et c'est pour ça qu'on a fait, par exemple, du dimanche un jour, le jour du Seigneur, et que pendant longtemps, et ça continue encore maintenant, avec cette idée de dire, par exemple, est-ce qu'on a le droit de faire du sport le dimanche? Et pendant longtemps, la réponse a été non, avec une règle assez stricte de dire, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, on le consacre au Seigneur, et toutes les activités sans importance, en particulier le sport, peuvent se faire les autres jours de la semaine, mais en tout cas pas le dimanche, c'est quelque chose qui est rigoureusement interdit.
On entend beaucoup de sportifs qui jouent aussi le dimanche, qui disent « je joue pour la gloire de Dieu ». Vous dites « c'est une évolution », mais qu'est-ce que concrètement ça veut dire pour quelqu'un qui n'est pas initié, jouer pour la gloire de Dieu ?
Je crois que c'est... Moi je dirais, enfin je pense que ces sportifs-là essayent de dire... Ce que je fais, c'est pas pour moi-même, ou si c'est pour moi-même, c'est à travers moi, je reconnais que j'ai reçu quelque chose, de Dieu. C'est comme ça que moi je comprendrais les choses. Le talent que j'ai reçu, je l'ai reçu de Dieu et j'en suis juste le dépositaire, je le fais fructifier. J'essaye de le développer, j'essaye de l'utiliser, j'essaye de m'en servir, mais je reconnais aussi chaque fois une forme d'humilité en disant c'est quelque chose qui me vient d'ailleurs et pour lequel aussi je dois témoigner, je dois remercier simplement Dieu de me le donner. Ce n'est pas mon propre mérite, mais c'est quelque chose que je reçois de quelqu'un qui est plus grand que moi.
Aujourd'hui, on voit que les protestants, les évangéliques ont réellement... investi le monde du sport. À partir de quelle période il y a eu un regard nouveau qui a été posé? Vous disiez qu'il y avait peut-être dans certains pays comme l'Allemagne certaines réticences aux loisirs. Comment les choses ont évolué?
Alors, on a dit dans un des livres que j'ai lu sur l'histoire du sport, on a dit qu'on a découvert le protestantisme a découvert l'intérêt du sport quand il a vu qu'il pouvait faire de l'argent avec. C'est un peu cette idée du protestantisme et de l'esprit du capitalisme. Je pense que c'est pas entièrement faux, et c'est de se dire ça devient une activité noble au moment où ça rapporte de l'argent. De manière plus large, je pense que on peut dater en fait du milieu du 19e siècle. C'est le moment où ce qu'on appelle la muscular Christianity, un christianisme musclé, c'est le moment où il y a beaucoup d'exodes ruraux et beaucoup d'hommes viennent travailler en ville, de jeunes hommes viennent travailler en ville à Montréal, à New York, à Londres. Et c'est là qu'on se dit qu'il faut commencer à leur parler un langage, les églises, les pasteurs se disent qu'il faut leur parler un langage qui convient à des jeunes hommes. Donc il faut développer une forme de christianisme viril. Qui n'est pas tout en rose, mais c'est l'idée d'un christianisme qui convient à des hommes. Donc on change un peu le discours, on muscle le discours théologique, mais aussi on crée des lieux de sport pour accueillir ces jeunes. Et c'est la naissance, notamment, je crois que c'est le premier est à Montréal, du YMCA, de ces salles de sport qui permettent d'accueillir des jeunes hommes et de leur donner une occupation. Qu'on pense qu'il leur convient du sport et de profiter de ces rassemblements aussi pour leur parler de Jésus, parler de Dieu et leur apporter l'évangile. Donc je pense qu'il y a un grand tournant comme ça au milieu du 19e siècle où les églises chrétiennes commencent à utiliser le sport Et c'est pas que les protestants, du côté catholique, il y a toute une éducation aussi par le sport, avec des clubs de foot, on parle toujours de l'AJ Auxerre, qui est un club de sport catholique, et c'est l'idée de dire on va utiliser le sport pour rassembler des jeunes gens et puis leur donner une formation, une éducation chrétienne.
Vous êtes toujours dans le sport au cœur de la foi avec comme invité le théologien Olivier Bauer qui vit à Lausanne en Suisse. Et on s'interroge sur la théologie, le sport, sur en cette période des 500 ans de la réforme protestante. Alors, est-ce que réellement on essaye de mixer le sport et la foi mais est-ce que le sport en lui-même est porteur de valeur ou est-ce que c'est un mythe, une sorte d'instrumentalisation politique comme on a eu ce fameux Black Bomber au lendemain de la victoire de France 98 et on voit que on en est bien loin dans une cohésion sociale en France, une intégration de tous. Comment vous voyez les choses?
Moi, je trouve que le sport devrait être un véhicule de valeur, mais honnêtement, il l'est très peu et il l'est de moins en moins. En particulier le sport professionnel, le sport d'élite, mais de plus en plus, c'est quand même une question. L'essentiel est de remporter la victoire et tous les moyens sont bons pour y parvenir. Et ça vaut aussi bien pour un pays. Hein, on a vu aussi tout ce qui allait avec de tricherie ou d'accommodement avec des règlements pour arriver à remporter des victoires ou à organiser chez soi aussi des grands événements. Mais ça vaut aussi pour les sportifs d'élite à titre individuel, à titre d'équipe privée, équipe de foot, équipe de vélo, enfin rugby. Et puis ça vaut aussi pour des sportifs amateurs. Enfin, quand on se rend compte les cyclistes amateurs qui se homme qui s'est fait prendre avec un moteur dans son vélo. J'avais un ami qui faisait des courses de moto de côte, mais un truc tout basique, quoi, de course régionale, et puis il était toujours étonné parce que les autres allaient plus vite que lui, alors qu'il avait une bonne moto, et puis il s'est rendu compte que tous ses concurrents, lui était pharmacien, tous ses concurrents buvaient 2-3 verres d'alcool pour inhiber toute leur peur avant une course. Mais on va très loin dans cette idée-là. J'ai couru une fois un marathon et j'étais étonné qu'après on m'a donné mon résultat. Alors je savais mon temps, mon classement, mais je savais combien d'hommes j'avais battu, combien d'hommes de mon âge j'avais battu, combien d'hommes plus jeunes et plus vieux m'avaient battu. Je savais combien de femmes m'avaient battu. Mais je dis, ça n'a aucune espèce d'importance. Je cours un marathon, c'est pour moi-même. Et à la limite, même ma place, ça devrait avoir aucune espèce d'importance. Mais je trouve que ça, c'est des contre-valeurs que, malheureusement, le sport développe de manière extrêmement forte et régulière et récurrente. Et c'est pour ça que ça devient vraiment des contre-valeurs. Puis pour le côté positif, j'étais au bord d'un terrain de foot de jeunes samedi dernier. Et l'arbitre siffle un hors-jeu qui n'était peut-être pas évident. Et tout de suite, l'entraîneur dit... Il a sifflé, on respecte. Et je trouve que c'était, voilà, ça c'est des valeurs qui me semblent tout à fait positives. Est-ce qu'on est capable d'apprendre aux jeunes qu'on respecte l'autorité, peut-être l'arbitre a eu tort, mais il a sifflé et pour l'instant on respecte. Après le match, on peut toujours rediscuter avec lui. Mais là, je trouve que c'est des valeurs positives que le sport peut véhiculer. Mais c'est rare. Trop rare.
Et dernière question, si Jésus... vivait au XXIe siècle et qu'il devait être entraîneur d'une équipe, ça serait laquelle et quel serait son profil?
Et alors, est-ce qu'il serait entraîneur? Est-ce qu'il serait meneur de jeu? Est-ce qu'il serait arbitre, hein? Je trouve que c'est des questions qu'on peut se poser. Moi, je pense que c'est une des choses qui me dérange aussi théologiquement dans le sport, c'est le côté, il faut tout de suite être partisan. Vous voyez, c'est de quelle équipe est-ce qu'il serait l'entraîneur? Ou avec quelle équipe Dieu va jouer? Ou pour quelle équipe est-ce que je vais prier? Moi, peut-être je verrais en fait Jésus peut-être comme un arbitre qui distribue les... Il siffle les fautes, mais il les punit pas forcément, il les siffle, il les marque. Peut-être de temps en temps, il donne un carton jaune, voire un carton rouge. Mais je pense que je le verrais plus en arbitre qu'en entraîneur ou qu'en président de club.
Merci beaucoup, Olivier Bauer, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Vous avez abordé un point d'une expérience d'aumônerie de pirogue à Tahiti. On aura l'occasion de revenir sur cette expérience dans une dernière émission autour de toute une réflexion théologique du sport et de la foi et aussi de l'investissement des aumôniers dans le monde du sport. C'était le sport au cœur de la foi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur les ondes de RCF Alpha.
RCF.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission Le Sport au cœur de la foi, avec cette semaine comme invité Olivier Bauer, avec qui on continue de réfléchir sur une théologie du sport, de la place de l'évangile dans le monde du sport et dans l'histoire au cours de ces 500 ans depuis la réforme protestante et des 95 thèses de Luther. Bonjour Olivier.
Bonjour Joël.
Merci pour votre persévérance à continuer. Troisième émission, mais c'est un événement.
Je suis marathonien.
Voilà. Donc vous n'êtes pas un sprinter, vous prenez votre temps pour répondre à ces questions. Merci beaucoup. Ce n'est pas tous les jours que l'on fête aussi les 500 ans de la réforme protestante. Donc c'est l'occasion de réfléchir sur cette thématique. Alors moi ce que j'aimerais voir c'est qu'est-ce que le protestantisme a apporté comme évolution, comme innovation en matière sportive.
Il y a des choses un peu concrètes, mais est-ce que c'est un peu des fois anecdotique, hein? On raconte que par exemple le basketball a été inventé par un étudiant en théologie de l'université McGill à Montréal, un étudiant presbytérien, mais qui était aussi médecin. Donc il y a une vision un peu plus large de cette idée. Mais je dirais peut-être qu'en fait, le protestantisme a plus reçu du sport qu'il a apporté, notamment toute cette idée d'une implication du corps. Et c'était un peu le défi au 19e siècle de se dire, en gros, on était très fort pour parler aux âmes, probablement au cerveau, mais l'idée de dire, c'est comment est-ce qu'une église peut parler au corps? Comment est-ce qu'elle peut impliquer le corps dans une célébration? Luther disait que les seuls organes du chrétien, c'était des oreilles. Évidemment, ça marche pas très bien avec le sport, parce qu'il faut aussi des bras, des jambes, un cœur, des poumons, etc. Et je pense que je dirais d'abord que le protestantisme a reçu du sport cette idée de l'importance du corps, vraiment au cœur de cette de l'être humain. L'être humain est un corps et pas seulement un cerveau ou une âme.
Comment vous définiriez aujourd'hui le rapport à la spiritualité chez les sportifs?
Ouais, c'est de, je pense, de plus en plus divers. C'est intéressant quand on lit quelques témoignages. D'abord, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de sportifs qui ont besoin, envie de témoigner de leur foi. J'ai l'impression, mais j'ai pas fait de statistiques, que dans les sportifs d'élite, par exemple, on a peut-être plus de croyants, en tout cas plus de gens qui disent être croyants que si on prenait une population en général. L'impression un peu que ces situations un peu extrêmes, peut-être les poussent à oui, ils ont besoin d'avoir, ou de dire en tout cas qu'ils ont ce genre de croyances. On voit les manifestations aussi sur un terrain de foot. Si vous regardez dans le football actuel, entre des sportifs musulmans, des sportifs protestants, catholiques, ceux qui manifestent en tout cas les choses, il y a une proportion extrêmement forte de croyants dans ce monde du sport. Après, c'est des formes diverses. Et puis, je pense qu'aussi, il y a des sports qui ont l'air, en tout cas, d'être liés à certaines cultures religieuses. Hein. En Asie, c'est quand même le bouddhisme, le taoïsme, et puis on a beaucoup d'arts martiaux. Est-ce qu'il y a un lien entre spiritualité et pratique sportive? Dans les pays protestants ou catholiques, chrétiens en général, on a beaucoup développé le football, le soccer. Est-ce que là aussi, il y aurait quelque chose dans ce sport d'équipe, d'affrontement un contre un? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à une culture religieuse? Je pense enfin, le dernier exemple, je suis toujours frappé par le type de gymnastique qu'on pratique dans les pays de culture protestante, en Suisse, en Allemagne, en Scandinavie. C'est souvent une gymnastique collective. Il y a des grands gymnastrada. Et c'est l'idée, on fait pas que de la gym pour se dépasser, mais on fait de la gym pour être ensemble. On fait de la gymnastique, y compris aux agrès, des exercices d'ensemble. Et chaque village a son équipe. Et il n'y a pas un sportif qui cherche à s'affirmer par rapport aux autres. Mais l'important, c'est la collectivité, le groupe. Est-ce qu'il y a aussi une influence protestante sur cet aspect-là? C'est des questions qu'on peut se poser.
Vous Vous êtes toujours dans le sport au cœur de la foi, avec comme invité le théologien Olivier Bauer. Alors Olivier, vous avez aussi une expérience, pas seulement comme théologien, mais comme praticien dans l'aumônerie du sport, de par votre rôle de pasteur. Vous avez été à Tahiti, où là on vous a emmené dans une aventure particulière, être aumônier dans une course de pirogue. Et puis aussi vous avez eu une expérience quand vous avez vécu au Québec, où là vous avez été observateur et aumônier auprès d'une équipe de hockey. Est-ce que vous pouvez nous partager quels souvenirs vous gardez de tout ça et quelques petites anecdotes? Et justement, est-ce que ça vous a aidé à définir le rapport à la spiritualité chez les sportifs? Est-ce que ça vous a montré qu'il y avait vraiment des besoins dans ce domaine?
Oui, peut-être je peux commencer quand j'étais animateur de jeunesse à Neuchâtel, dans une église en Suisse, dans une église réformée, et j'avais invité un jour l'entraîneur de Neuchâtel Xamax, qui était la grande équipe de foot en Suisse d'ailleurs, à Neuchâtel, mais en Suisse aussi. Et l'entraîneur était Roy Hodgson, qui est devenu ensuite entraîneur notamment de l'équipe d'Angleterre. Et je me rappelle toujours, il m'avait donné une leçon, il avait parlé devant des jeunes, et il avait expliqué que quand les sportifs, quand son équipe jouait bien, il était très sévère à l'entraînement la semaine qui suivait. Et quand ils jouaient mal, il était gentil. Et je trouvais intéressant comme vision. Il dit quand ils gagnent, ils sont prêts à tout faire. Donc s'ils sont euphoriques, je peux leur faire faire 300 tours de terrain, ils vont pas dire non. S'ils perdent, par contre, il faut que je les entoure, il faut que je prenne soin d'eux, il faut que, j'allais dire, je les câline un peu. Et il faut que je fasse un entraînement ludique où ils ont du plaisir parce qu'ils ont besoin d'être réconfortés. Et je trouvais au niveau transmission de la foi, valeur, éducation, pédagogie, j'avais trouvé très intéressant cette idée. Parce que moi, quand je jouais au foot, si on perd, mardi prochain, vous ferez 50 tours de terrain. Mais là, il y avait une vision différente. Quand j'étais aumônier de cette équipe de pirogue à Tahiti, j'ai dû baptiser la pirogue ou la bénir. Donc je trouvais ça déjà intéressant. Ça se fait en Polynésie, dans les églises protestantes. On bénit, on baptise, on met en ordre des objets. C'est l'expression qui est utilisée. Je me suis demandé, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et je me suis dit, et si la pirogue coule, qu'est-ce que ça veut dire? Et après, je me suis dit, j'ai fait des mariages, j'ai béni des mariages qui ont coulé, et puis ça arrive aussi, donc ça relativise les choses. Et puis cette pirogue a eu effectivement un accident. Alors après, ça pose des questions. Est-ce que c'est la faute du pasteur si la pirogue est-ce qu'elle a été mal bénie, par exemple, ou mal baptisée? Ça, c'est des questions théologiques qui se posent directement, je trouve. C'est ça, le sport, c'est des questions qui sont directes. Et puis après, quand on était sur la rive, après avoir dû abandonner la course, je racontais qu'un vieux Polynésien me dit, pasteur, il faut prier. Et moi, j'étais un peu désemparé parce que je ne savais pas très bien que dire ou que demander ou que dire à Dieu dans cette situation. Et lui, il me dit, qu'on gagne ou qu'on perde, on remercie Dieu parce que voilà, c'est la vie et puis c'est comme ça que ça se passe. Donc ce que j'ai appris aussi en observant aussi au Québec, c'est que les aumôniers ne prie jamais pour la victoire, ou en tout cas pas ceux que j'ai rencontrés. C'est toujours l'idée de dire on va demander à Dieu de nous protéger, surtout dans les sports qui sont parfois dangereux ou qui sont violents. Et puis c'est aussi pour demander à Dieu que chacun soit capable de faire son maximum, de donner son plein potentiel. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant à transposer dans la vie. On va pas demander à Dieu de faire toujours des miracles. Peut-être que ça viendra en plus, mais on va par contre demander à Dieu de nous aider à remplir notre mission, j'allais dire, à mettre au service des autres les dons qu'on a reçus. Donc ça, je pense que pour moi, c'est vraiment des leçons théologiques que j'ai reçues au travers du sport.
Et quel serait le discours, l'enseignement de Jésus qu'il a donné dans les évangiles, qui serait le plus transposable ou qu'on aurait le plus envie, si Jésus était un coach, lequel il transmettrait avant un match pour motiver ses joueurs?
Moi, je trouve c'est pas très biblique, mais en anglais, ils aiment bien dire « have fun », prends du plaisir. Et je crois que moi, c'est comme ça que je verrais les choses. C'est profite de l'instant, fais ce que tu as à faire, et puis vis, en quelque sorte, vis le moment. Moi, je pense que, alors c'est peut-être pas très biblique, mais ça me semble être assez évangélique comme principe.
Chaque jour suffit sa peine. Vous inquiétez pas du lendemain.
Inquiétez pas du lendemain, on pourrait dire les choses comme ça. Mais c'est vraiment l'idée de dire, fais ce que tu... Je pense, en fait, un verset de l'Ecclésiaste, il parle pas de sport, mais il dit, réjouis-toi de la vie, bois du vin, mets du parfum sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, car Dieu a déjà approuvé tes actions. Et je transposerai ça dans le monde du football en disant profite de ce que tu fais parce que de toute façon, ta justification, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui justifie ton existence, donc profites-en. Profites-en au maximum.
Pour avoir été aumônier auprès d'une équipe de hockey, quel souvenir vous gardez d'un fait marquant, eux qui ont beaucoup de pression, c'est le sport numéro un là-bas, avec beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez une anecdote particulière ?
J'allais dire, c'est peut-être pas vraiment OK, mais je trouve intéressant, j'avais un collègue pasteur qui disait toujours que, pour ceux qui connaissent le hockey, que Jésus, c'était... Quand le gardien en hockey se fait pénaliser, c'est pas lui qui va purger ses 2 minutes de suspension, de pénalité. C'est un autre joueur qui le fait pour lui. Et lui disait toujours, et je trouvais assez fort comme image, que pour Jésus c'était pareil. C'est nous qui sommes coupables, mais c'est Jésus qui va sur le banc des pénalités à notre place. Et je trouve que c'est un beau discours, une bonne manière de lier l'évangile et le hockey sur glace.
Alors on pourrait finir l'émission sur cette très belle image sur Jésus. Mais j'aimerais un dernier mot. Vous avez eu l'occasion de participer au Congrès international du sport et de la foi à York, en Angleterre, en août 2016. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Quels sont les faits marquants, les évolutions, les perspectives d'un tel événement ?
Moi, ce qui m'a frappé, j'avais déjà un peu découvert en Amérique du Nord, mais c'est de voir combien en Angleterre, c'est peut-être aussi une culture particulière, la place que le sport occupe dans la vie des églises. Je crois que l'église anglicane aimerait qu'il y ait pour chaque diocèse 2 aumôniers pour les milieux sportifs. Et puis quand j'étais à York, j'ai rencontré qu'il y a des programmes d'université qui forment des aumôniers des milieux sportifs. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait pratiquement tous les sports. J'ai rencontré un aumônier des champs de course pour hippique, par exemple. J'ai rencontré une dame qui fait de l'aumônerie dans les rallyes de voitures. J'ai rencontré aussi l'aumônier de Manchester United. Mais ce qui m'a fasciné, c'est de voir comment des églises installés ou des mouvements ou des... Enfin, combien cette aumônerie du sport est une réalité importante. Et je ne trouve pas du tout ça dans le monde francophone, me semble-t-il, ou dans le monde latin de manière plus générale. Et je trouve que c'est un manque. Et je sais que vous travaillez pour que les choses changent. Et puis ici à Lausanne, profitant de la proximité avec le comité olympique et puis des fédérations sportives, je trouve que là aussi, on devrait travailler pour que les choses changent et que l'Église, les Églises aussi, prennent mieux en charge encore cette dimension de la vie, parce que ça devient essentiel. Et quand on voit la place que ça prend dans la vie des gens, des sportifs ou des téléspectateurs ou des spectateurs, ça me semble urgent de s'en occuper.
Merci beaucoup Olivier Bauer d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. On peut vous retrouver sur le site Olivier Bauer, BAUER.org, et aussi sur les réseaux sociaux comme Twitter où vous êtes actif. Et puis pour les gens qui veulent creuser cette question de la théologie du sport et de la foi, donc peuvent se rendre sur ce blog et puis aussi continuer à nous suivre sur le site plusquesportif.org avec des témoignages de vie des sportifs. C'était le sport au cœur de la foi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur les ondes de RCF Alpha.